Ralph Meyer, Caroline Delaby, bonjour. Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie du 7e tome de la saga Undertaken, intitulé Mr. Perry, qui vient de sortir aux éditions d'Argo. Au moment de la sortie du tome 6, Savage, c'était en août 2021, certains lecteurs s'étaient demandé si ce n'était pas déjà la fin d'un cycle, si même vous n'allez pas quitter la diligence. Et puis vous voilà, plus fort que jamais, à réattaquer. Et donc, je me suis demandé si c'était de simples supputations de la part de vos fans ou si réellement vous aviez pensé à arrêter.
Alors, bonjour. non, il n'y avait aucune volonté d'arrêter la série, bien au contraire. Mais évidemment, comme on essaye de faire des diptyques, on essaye à chaque fois qu'un cycle se termine. Et donc, que ce soit qu'il y ait une conclusion un peu forte qui marque un moment important dans le parcours de Jonas.
Donc, ce n'est pas justement un Jonas qui voulait jouer un petit peu les acteurs et interprètes de James Bond en disant « on va donner sur la surenchère ». Non, non, il était bien présent et d'accord qu'il était de nouveau reparti pour un nouveau diptyque.
Oui, oui, tout à fait, d'autant que la conclusion du tome 6, du diptyque précédent, était que Jonas prenait enfin pleinement conscience de l'amour qu'il portait pour Rose Prairie et se donnait comme mission de la retrouver le plus rapidement possible.
Rose, en fait, elle est apparue dans le deuxième tome, déjà, je crois, en 2015,
Oui, mais c'est dès le premier tome,
ouais.
Qui est en 2015.
Hein, oui, et... Donc déjà, est-ce que vous aviez imaginé sa biographie ou c'est venu au fil des épisodes ?
Alors il y a comme toujours quand Xavier construit un personnage, il connaît quand même une bonne partie du background du personnage. Après, quand on est sur des diptyques comme on le fait pour l'instant, qui prennent du temps et qui font naviguer les personnages par mon et par vos. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, les personnages nous échappent un petit peu et commencent à avoir leur propre autonomie. Donc, on ne peut plus leur faire faire tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que ça se construit. Donc, pour répondre à votre question, tout n'était pas prédéfini pour le parcours de Rose.
Alors, on va se retrouver au Texas, donc changer d'état avec un contexte plus urbain. Là, c'est plus Caroline qui peut un petit peu nous expliquer, et en même temps de saison. Donc, c'est Xavier, c'est vous qui avez décidé de vous lancer un nouveau défi ou...
Non, en fait, ce sont des défis qu'on se lance tous les trois, suite à ce qu'on pourrait appeler une espèce de brainstorming qu'on fait à la fin de chaque cycle. On se réunit tous les trois, on pense aux pistes qu'on voudrait aborder dans le diptyque suivant. Et voilà, on met en commun un peu toutes nos envies. Et de là, souvent émerge une idée qu'on décide d'exploiter. Et vu que notre parti pris, c'est à chaque diptyque d'avoir une identité graphique, colorée et au niveau de l'ambiance qui soit distincte, des autres diptyques, là on a eu l'idée de effectivement changer d'état pour aussi pouvoir changer de saison, et on aimait bien en fait les couleurs de saison au Texas à l'automne qui sont très chaudes mais pas dans la même gamme que les albums précédents qu'on a pu faire dans des teintes chaudes aussi, comme par exemple le premier diptyque qui était fort dans le désert, donc tout des teintes très ocre et orangé. Ici on est plus dans des teintes vraiment automnales pour le coup, plus jaune, orangé, finalement qui ont un côté serein, de calme et de tranquillité, et qui contrastent évidemment très fort
avec les thèmes,
avec la thématique. Ouais.
On parle de Texas, mais plus précisément à Eden City, j'ai vu qu'il existait une ville Eden. Je suppose que vous avez été inspiré de cette ville qui maintenant a environ 3000 habitants et qui se trouve dans le comté de Concho. Et donc, je me suis demandé si c'était là que vous avez été puisé votre source d'inspiration.
Alors, Xavier serait plus à même de vous répondre à ce niveau-là, mais je pense...
T'es d'où, Caroline, au niveau des recherches? Est-ce que vous avez été fouillé un petit peu dans les archives de la ville?
Pas pour ce tome-là, on ne l'a pas fait.
Non.
On l'a fait pour le diptyque précédent. où on avait retrouvé des archives sur des sites américains qui étaient très 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 riches en fait. Hein. On avait pu
oui, de photos d'époque.
Ouais. Mmh. Et tu avais même pu refaire plus ou moins le plan de la ville sur cette base-là. Mais c'est vrai que cette fois-ci, on n'a pas vraiment eu de.
A priori, je pense que Xavier a aimé la musicalité du nom et que c'est plus par goût ou en tout cas ce type de choix qu'il est parti là-dessus.
C'est toi, Density. Oui. Eden City, bon. Bienvenue en enfer.
Alors un des thèmes abordés, c'est celui de l'avortement. Et finalement, dès le départ, vous rentrez dans le vif du sujet. Puisque dès les deux premières pages, on est vraiment confronté à la problématique et surtout à la notion de religion et de péché.
Oui, tout à fait.
Donc, c'était un choix dès le départ de lancer le pavé dans la mer.
C'est-à-dire que d'un point de vue très technique, de toute façon, les premières pages, une introduction d'un livre, d'un roman, d'une bande dessinée, tant qu'à faire, il faut que ce soit quelque chose qui vous happe directement. Donc évidemment, c'était intéressant de poser déjà toute la problématique qui allait être développée dans le diptyque dès les premières pages. Et là-dessus, je trouve que Xavier l'a fait de manière extrêmement concise sur 3-4 lignes de dialogue. Mais qui sont d'une efficacité crasse.
Finalement, Jonas, il prend parti ou il ne prend pas parti? Parce que justement, avec cette page-là, en allant se confesser, on se dit que pour lui, il y a quand même un souci. Non? Alors que dans le corps de l'album, il prend moins position, peut-être, non?
Alors les toutes premières pages, Jonas n'est pas présent. Ouais. Enfin, les deux premières pages, c'est vraiment Eleanor Wintour qui fait confession, en effet, et qui demande de l'aide, qui demande surtout de l'aide. Après, Jonas, lui, est dans une position qui est de quelqu'un qui n'a jamais été confronté à cette problématique-là. Et donc, qui, dans un premier temps, est plutôt en écoute. Des arguments des uns et des autres avant de se forger sa propre opinion.
Autre thème aussi, le fanatisme religieux, interprété par, incarné plutôt par Madeleine Esterhaus. Au départ, c'était un homme, non ?
Oui, au départ, on avait choisi effectivement plutôt une piste masculine, et puis on s'est dit que c'était assez cliché, manichéen, vraiment peut-être trop, quoi. Et on s'est dit qu'en fait, on enrichissait le débat et ce qui se passe autour des protagonistes en faisant que voilà, le grand adversaire de Jonas, de Rose, de Miss Wintour soit plutôt une femme, et puis surtout bah voilà, une femme qui confronte d'autres femmes sur un sujet qui nous touche toutes, et puis pas que des femmes, parce que finalement c'est vrai que dans le diptyque là, on aborde effectivement l'avortement, mais aussi le droit de chacun de disposer de son corps comme il l'entend. Et c'est vrai que si historiquement c'est plutôt un homme qui a, via les ligues de vertu, qui était pour le coup plutôt porté par des femmes, mais c'est quand même un homme qui s'est vraiment emparé de ces thématiques-là à l'époque, donc il s'appelait Anthony Comstock, et qui a fait effectivement interdire l'avortement à l'époque via le Comstock Act, qui a donc été une loi passée aux États-Unis et qui a effectivement interdit les femmes de pouvoir avorter alors qu'elles pouvaient le faire jusque-là de manière tout à fait libre. Et c'est d'ailleurs une loi qui est aujourd'hui à nouveau grandie dans les États du Sud.
Ouais. Mais d'ailleurs, j'aimerais ajouter que quand on regarde tous les mouvements pro-life aux États-Unis, c'est énormément porté par des femmes aussi. Ouais. Je dirais que ça, le fait d'avoir choisi le personnage de Oz n'est pas juste ça n'est pas juste pour un attrait scénaristique intéressant. C'est une réalité aussi sur le sujet, quoi.
Oui. C'est assez incroyable. On est en pleine Inquisition finalement, et elles ont des, enfin elles en tout cas là, ont des pouvoirs énormes pour aller fouiner. C'est assez interpellant,
et ça,
quand même.
Et ça, pour le coup, c'était des pouvoirs qu'avait justement le Anthony Comstock dont Caroline parlait. Il était dans une ligue de vertu et il avait ses pleins pouvoirs au niveau du courrier des gens. Quoi.
Comment se fait-il que c'est justement la poste qui lui a donné cette extension d'autorité ?
À partir du moment où vous pouvez ouvrir le courrier des gens, vous pouvez entrer dans leur vie de manière... C'est très intrusif dans l'intimité des gens. Et en fait, ça vous permet... ça vous donne des armes que vous ne pourriez pas avoir d'une autre façon.
Incroyable.
Oui, tout à fait. C'est une atteinte à la liberté qui est vraiment énorme.
Alors justement, en parlant de décision, donc le 24 juin 2022, la Cour suprême révoque l'arrêt Roe versus Wade, qui garantissait depuis 1973 le droit d'avorter sur tout le territoire. Est-ce que ça a été un élément déclencheur dans votre réflexion ?
Non, ce qui s'est passé, et quand on a appris la nouvelle, on a été quand même assez stupéfait. Parce qu'à ce moment-là, le scénario était écrit.
C'est ça.
Il était terminé et moi, je commençais à faire la mise en scène et les premières pages. Donc, on s'est retrouvé vraiment...
Face à une réalité qui est quand même...
C'est hallucinant de se retrouver dans cette situation-là. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir que l'histoire se répète. C'est exactement ce qui s'est passé 100 ans auparavant aux États-Unis. Et on se retrouve exactement dans la même situation.
Et le Texas, qui fait partie maintenant des 14 États qui condamnent l'avortement, ça c'est incroyable. Est-ce que ça aurait pu, imaginons, si vous aviez dû changer d'État en fonction, parce que ça c'est un impact énorme, vous auriez pu changer votre histoire en fonction de si vous étiez tombé dans un État actuellement qui lui autorisait malgré tout l'avortement ? Est-ce que vous seriez reparti de... La problématique ne se pose plus, vous allez me dire.
Je suppose que non. Je pense que le choix du Texas, comme on l'a dit au début, était aussi un choix graphique, esthétique, qui était intéressant, même si d'un point de vue historique, c'est le passé était chargé pour le Texas à ce niveau-là. Donc je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose sur l'écriture du récit.
On parlait tout à l'heure de brainstorming. Est-ce que vous avez un modus operandi ? Qui a eu l'idée de cet album-ci ?
À chaque fois, c'est difficile de dire parce que...
Vous échangez
Non, on se voit tout simplement, on se réunit et à ce moment-là, il y a des idées qui sont lancées et... Et au final, on a un projet, mais à chaque fois, on se dit, qui a amené quoi, en fait. Ce qui reste, c'est juste l'excitation de se dire, par exemple, typiquement, il y a 2 semaines, on était dans le train pour la promotion avec Xavier et Caroline, et on discutait du diptyque suivant pour les tomes 9 et 10. Et sur une heure de trajet, on a trouvé notre sujet, comment l'aborder, et on était tout excités. Tout juste à se dire, on a vraiment une super piste pour le 9 et le 10. Et après, en y repensant, on s'est dit, mais l'idée vient de qui ?
En parlant justement de diptyque, donc le tome 8, vous l'annoncez déjà, donc Le Monde selon Rose. À une époque où les plateformes sortent une série avec tous les épisodes en une fois, maintenir le principe du diptyque, c'est dur, non ? Vous êtes sadique sur les bords ?
Sadique, sûrement pas. Il y a deux réponses. La première, c'est que de toute façon, Xavier, lui, dans son écriture, se retrouve, le fait d'arriver sur un scénario qui fait en tout à peu près 120 pages, ça lui convient parfaitement pour... ça lui permet de développer de manière assez poussée une intrigue et en même temps d'avoir des personnages très construits, et je pense notamment aux personnages secondaires qui sont toujours très construits avec Xavier. Donc tout ce travail-là qu'il fait de développement nécessite 2 albums. Et je crois aussi qu'un diptyque finalement est une bonne solution parce que si on était sur des trilogies ou des tétralogies, je pense que c'est vraiment beaucoup trop long. Mais le fait que qu'on soit quand même dans le cadre d'une série, mais en même temps qu'on ait des albums qui sont conclusifs à partir du second volume du diptyque, ça me semble quelque chose qui convient bien aujourd'hui en termes de type de sortie d'album traditionnel franco-belge. Et puis je crois que les lecteurs, en tout cas c'est les retours qu'on a, sont vraiment contents de ce type de fonctionnement.
Et on peut savoir où vous en êtes avec le tome 8, il est déjà terminé au niveau des couleurs, des dessins.
On vient de recevoir, il y a une semaine, on a reçu le scénario qui est donc terminé, écrit, c'est super excitant. Et puis là, Ralph va attaquer le découpage, la mise en scène. Et puis les premières pages.
Oui, rapidement, voilà. L'année prochaine.
Un autre thème aussi qui est abordé, c'est celui de l'homosexualité. C'est vrai que ça fait quand même sujet tabou dans le western, l'homosexualité. On se souvient de Brokeback Mountain en 2005. Ça a été un coup de tonnerre. Et apparemment, ça n'est toujours pas digéré, je veux dire, au niveau de la conception de ce genre.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs assez étrange parce qu'aujourd'hui, c'est un fait admis et documenté, le fait que l'homosexualité était très courante à l'époque et les mouvements trans étaient déjà présents. Si, les mouvements trans étaient déjà existants à l'époque. Aujourd'hui, c'est un fait établi. Mais comme vous dites, il y a eu... ça reste encore effectivement assez tabou. Il faut dire qu'il y a eu aussi une grosse réécriture historique. Hein. Le western, c'est vraiment devenu le récit de genre mythologique de la conquête de l'Ouest. Et comme tous les récits mythologiques, c'est écrit avec certaines intentions malgré tout derrière. Et je pense que ce genre de thématique n'était pas forcément vu d'un bon œil. Donc c'est souvent le cas dans ces cas-là, on le met de côté.
Pour terminer, une des pensées de Jonas, c'est suivez votre instinct, lui il ne ment jamais. C'est également votre idée et votre conception.
Oui, je pense que c'est clairement l'instinct est quand même quelque chose de très très bien fait et en effet souvent exact. Oui,
on a souvent, parfois peut-être tendance à trop le museler d'ailleurs. Je pense que parfois certaines décisions instinctives sont parfois les bonnes et peuvent même être dans certains cas salvatrices.
Caroline, Ralph, un grand merci. Donc on rappelle Mr. Perry, donc le tome 7 de Undertaker, disponible actuellement et sorti chez Dargaud.
Merci à vous.
Merci à vous.